écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est 21h ici à Paris, 19h en temps universel, lors d'un nouveau journal.
Stéphane Genest.
Bonsoir à toutes et à tous. Et ce journal évidemment consacré en grande partie à la situation au Proche-Orient, puisque le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été tué ce vendredi par des frappes israéliennes sur Beyrouth. C'est désormais confirmé par le mouvement. Les Occidentaux craignent un embrasement régional encore plus intense. L'Iran notamment avertit que cet assassinat du chef du Hezbollah entraînera la destruction d'Israël. Fin de citation. Réaction également de Joe Biden et de Kamala Harris, les États-Unis qui apportent quant à eux leur soutien à l'État hébreu. Au sommaire également, des centaines de personnes rassemblées à Londres pour une manifestation pour la réintégration de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, 8 ans après le référendum sur le Brexit. Et l'Agence mondiale antidopage fait appel dans l'affaire Yannick Sinner. Elle réclame 1 à 2 ans de suspension pour le numéro 1 mondial du tennis. La raison, c'est qu'il a été contrôlé positif à une substance interdite en mars, mais il a été blanchi. C'est donc la principale information de ce samedi, la mort d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Elle a d'abord été annoncée par l'armée israélienne ce matin, puis confirmée par le Hezbollah un peu plus tard dans la journée. Le mouvement explique que son chef a bien été tué dans une série de bombardements ce vendredi soir sur la ville de Beyrouth. Des frappes massives dans le quartier où se trouvait, d'après l'État hébreu, le QG du mouvement chiite libanais. Plusieurs réactions évidemment après l'annonce de la mort d'Hassan Nasrallah, dont celle de Joe Biden, le président américain, qui est très clair, David Thompson.
Dans un communiqué, Joe Biden salue la mort d'Hassan Nasrallah. Cet homme dirigeait un groupe terroriste qui est responsable de la mort de centaines d'Américains depuis 4 décennies de règne de terreur, écrit le président américain, qui qualifie l'assassinat du chef du Hezbollah de mesure de justice. Dans le même communiqué, Joe Biden appelle à la désescalade par tous les moyens diplomatiques possibles. Mercredi, le président américain croyait être parvenu à négocier une trêve, mais ses efforts ont été touchés dès le lendemain par Benjamin Netanyahou. Les deux hommes ne se sont pas parlé depuis un mois. Ils n'ont plus de contact direct depuis août. Seul le secrétaire d'État à la défense américain et son homologue israélien se sont parlé à deux reprises depuis la frappe. Lloyd Austin assure d'ailleurs que les États-Unis n'ont pas été informés de ce bombardement. David Thompson, Miami RFI.
Aux États-Unis, où c'est la vice-présidente et candidate démocrate à l'élection présidentielle, Kamala Harris, qui s'est aussi exprimée après la mort d'Hassan Nasrallah. Elle estime, je cite, que le chef du Hezbollah était un terroriste avec du sang américain sur les mains. Réaction également d'autres pays occidentaux comme la France, Paris qui demande à Israël de cesser de frapper le Liban et s'oppose à une opération terrestre. Au Liban précisément, 3 jours de deuil national ont été décrétés, 5 jours en Iran et on réagit. En effet, dans la région, le chef des rebelles houthis au Yémen affirme que la mort de Hassan Nasrallah ne sera pas vaine. Les autorités syriennes condamnent une agression méprisable et puis sans être exhaustif, le vice-président iranien avertit que cet assassinat du chef du Hezbollah entraînera la destruction d'Israël. Quoi qu'il en soit, cette confirmation de la mort d'Hassan Nasrallah n'a pas empêché l'armée israélienne de mener de nouvelles frappes sur le Liban ce samedi. Elle a annoncé cet après-midi une nouvelle frappe donc sur le fief du Hezbollah dans Beyrouth. Bombardements qui ont provoqué de nouvelles scènes de panique et de sidération dans les rues de la capitale libanaise. Les Libanais qui craignent à présent le scénario d'une intervention terrestre de l'armée israélienne dans le sud du pays. Écoutez l'analyse du journaliste Gabriel Blondel du quotidien L'Orient Le Jour, basé à Beyrouth.
C'est forcément un scénario qu'on est obligé de prendre en compte, quand bien même on sait que les dernières campagnes menées par l'armée israélienne au Liban Sud ont été très lourdes pour ses soldats. On voit quand même beaucoup de similitudes, pardonnez-moi, avec ce qui s'est passé en 2006. Donc on se dit que cette campagne de bombardement intense pourrait précéder donc une nouvelle invasion du Liban Sud pour créer une fameuse zone tampon, comme en parle l'état-major israélien. Forcément, une telle configuration redonnerait aussi au Hezbollah les capacités de pouvoir agir donc sur un terrain qu'il connaît très bien, car on voit pour l'instant son incapacité à répondre à tous les coups qu'il reçoit depuis donc 2 semaines, depuis l'attaque des beepers. On voit donc que ces frappes sur le territoire israélien n'ont quasiment aucun impact. On voit mal comment le Hezbollah pourrait ne pas réagir dans ce contexte-là, malgré tous les coups, encore une fois, qu'il a reçus depuis ces 2 dernières semaines.
Gabriel Blondel, journaliste au quotidien L'Orient Le Jour, basé à Beyrouth. Il était l'invité de Charlotte de Rouen dans RFI Midi. Par ailleurs, ces dernières minutes, les Houthis du Yémen affirment avoir visé l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv en Israël avec un missile. Et puis, À l'instant, Benjamin Netanyahou a pris la parole. Le Premier ministre israélien affirme, je cite, qu'Israël a réglé ses comptes avec ses ennemis, que son pays se trouve à un tournant historique après l'élimination d'Hassan Nasrallah. Benjamin Netanyahou qui explique aussi que cela fait avancer le retour des otages de Gaza. Fin de citation. Voilà ce que l'on peut vous dire à l'heure où l'on se parle sur la situation au Proche-Orient. On y revient évidemment dans nos prochaines éditions d'information et en temps réel sur notre site internet rfi.fr. 21h et pratiquement 6 minutes ici à Paris. On prend la direction des États-Unis puisqu'au moins 44 personnes sont mortes après le passage de l'ouragan Helene. Des millions d'autres personnes sont toujours sans électricité dans le sud-est du pays. Les équipes de secours s'activent pour rétablir le courant et faire face aux conséquences des inondations massives qui ont détruit des maisons, routes, commerces également à travers plusieurs États. Les services météo américains avertissent qu'un barrage situé dans l'est du Tennessee était sur le point de céder. Ils demandent aux habitants en aval de se déplacer immédiatement vers un terrain plus élevé. Nous sommes le samedi 28 septembre, journée mondiale du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Et ce chiffre qu'il est nécessaire de rappeler, d'où l'utilité de cette journée, 40% des femmes, 4 femmes sur 10 à travers le monde vivent dans un pays qui restreint ou qui interdit le droit à l'avortement. Des centaines de personnes se sont donc rassemblées dans les rues de plusieurs villes françaises pour défendre précisément ce droit. Rassemblements et manifestations également au Royaume-Uni, ils étaient plusieurs milliers de Britanniques à manifester ce samedi dans les rues de Londres pour réclamer un rapprochement avec l'Union européenne. Depuis le référendum sur la sortie de l'UE en 2016, certains continuent d'espérer une réintégration. Plus qu'un deuxième référendum, les manifestants réclament surtout une réadhésion au marché unique et le recouvrement de leur liberté de mouvement. Beaucoup de retraités au sein du cortège, mais aussi quelques jeunes qui se sentent particulièrement lésés par le vote du Brexit en 2016, comme Liam, rencontré par notre correspondante à Londres.
J'avais 16 ans au moment du vote, donc je n'ai pas pu participer. Je n'ai rien eu à dire sur un sujet qui m'affecte énormément et qui va continuer de m'affecter pour un long moment, plus longtemps en tout cas que ceux qui ont effectivement voté. Nous n'avons pas eu notre mot à dire la dernière fois, alors c'est important que l'on s'exprime maintenant pour être entendu. Le gouvernement doit se réveiller et admettre que ça n'a pas fonctionné. Tout le monde parle de faire fonctionner le Brexit, ce qui pour moi sous-entend que le Brexit n'a pas marché. Mais personne ne le dit clairement. Toute la classe politique doit faire preuve d'honnêteté. Le gouvernement travailliste dit vouloir faire passer le pays avant le parti, être plus transparent. Eh bien qu'il soit transparent et admette que le Brexit a été un échec retentissant.
Ce manifestant au micro RFI d'Emeline 20 à Londres, 21h08, tout pile ici à Paris. On ouvre notre page sport dans ce journal avec d'abord le tennis et ce rebondissement dans l'affaire de dopage impliquant le numéro 1 mondial Yannick Sinner. Il a été blanchi fin août par un tribunal indépendant après un double contrôle positif à un stéroïde anabolisant. Eh bien, l'Agence mondiale antidopage vient de faire appel de cette décision. L'Italien qui risque 1 à 2 ans de suspension, Eric Mamrut.
C'est après un long silence que beaucoup avaient dénoncé que cette affaire était sortie le mois dernier. Yannick Sinner blanchi par l'ITIA, l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis, après avoir étudié les 2 contrôles positifs de l'Italien du mois de mars, ses doses inférieures à 1 milliardième de gramme de clostebol trouvées dans ses urines. Pour sa défense, le numéro 1 mondial avait expliqué que ce sont les mains de son masseur qui l'avaient contaminé. Masseur qui avait soigné l'un de ses doigts égratigné avec un spray contenant ce stéroïde anabolisant. Une version convaincante selon l'ITIA qui avait conclu que Yannick Sinner n'avait commis aucune faute ni négligence. Rebondissement aujourd'hui puisque l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, estime que cette conclusion n'est pas correcte au vu des règles applicables. Elle a donc fait appel à la grande surprise de Yannick Sinner.
I'm very disappointed and also surprised. Je suis évidemment très déçu, aussi surpris de cet appel, parce que nous avons eu 3 audiences et elles avaient été très positives pour moi, donc je ne m'y attendais pas. C'est une surprise, mais vous savez, on parle toujours de la même chose. Peut-être qu'ils veulent juste s'assurer que tout a été fait correctement. Je suis juste surpris qu'ils aient fait appel.
L'AMA demande une suspension d'1 ou 2 ans à l'encontre de l'Italien. La balle est maintenant dans le camp du tribunal arbitral du sport qui livrera son verdict dans les prochaines semaines.
Eric Mamrut, et puis le football avec la suite de la 6e journée de Ligue 1. En ce moment, Monaco reçoit Montpellier, ça joue depuis 8 minutes, 0 partout. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Lens et Nice se sont quittés sur un match nul 0-0 et puis Lille s'est imposé il y a quelques minutes au Havre, 3-0. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, 21h10 ici à Paris.